Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 564 du podcast Jean Actuel. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va débriefer la 16e semaine de la saison régulière NFL. À mes côtés pour faire ça, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Je suis perturbé, j'ai l'impression que Raphaël vit dans un appartement flou. on dirait que tu vis dans un film de David Lynch ou un truc comme ça.
Ah bah ouais, ouais. Non, je le souhaite à pas grand monde, mais.
pour ceux qui n'ont pas l'image, donc Raphaël ne vit pas dans Twin Peaks 3, il a juste activé la fonction flou de Zoom. Bon, comment ça va Raphaël?
Eh bah bien, bien.
Bon, tant mieux. Victor Roulier, as-tu passé de bonnes fêtes? Comment ça va?
Hello, bah écoute, ça va très bien. Je suis sur les débriefs au lieu des previews, donc pas de sujet à préparer, pas d'affiche à préparer, pas de hypomètre à préparer, c'est un truc de flemmard hein, les débriefs.
Comment,
hein, donc,
comment ça pas à préparer? Faut mater les matchs et prendre des notes quand même, rassure-moi.
Ah d'accord, mais ça c'est du plaisir.
Ah bon, bah ça va alors. Messieurs, on va parler d'une division infernale, on va parler de favoris au rendez-vous, on va parler d'équipes qui survivent, on va parler de tout ça, mais avant, il y a de l'actu.
Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York.
10e année et toujours pas de procès lancé par NBC New York contre nous pour ce vol de jingle. Nathaniel Hackett n'est plus le coach des Broncos, messieurs. Il n'aura même pas terminé sa première saison. Alors, dans une émission précédente, on disait les coachs viraient après leur première année. Ça arrive de plus en plus. Mais au cours de leur première année, figurez-vous qu'il n'y en a pas eu tant que ça. C'est le 5e coach de l'histoire qui ne termine pas sa première année. Alors, il y avait eu Urban Meyer l'an dernier, le 4e, il est tout proche, voilà. Sinon, il fallait remonter à 2007, Bobby Petrino avec les Falcons, et avant, c'était 1978 et 1976. Faut savoir que Petrino, il démissionne pour retourner dans les rangs universitaires, et sur les deux autres, 78 et 76, il y en a un autre qui démissionne aussi. Donc vraiment, viré en cours de saison, ça n'arrive pas souvent pour une première année. Le fiasco est total, 4 victoires, 11 défaites. L'équipe qui marque le moins de points dans la ligue, avec une attaque dont on attendait quand même plutôt pas mal de choses, et sachant que Nathaniel Hackett était censé être un coach offensif, ce qui ne s'est pas beaucoup vu, c'est donc une catastrophe absolue, la saison est cuite. Est-ce qu'on peut résumer ça aussi en disant que le pire, c'est que ça n'a jamais eu l'air de marcher, en fait, Victor?
Oui, ça a été un désastre du début à la fin. En plus, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de nouveaux coachs qui arrivent dans des équipes qui n'ont pas des attentes énormes. Là, quand tu arrives dans une équipe qui a un bel effectif et qui, en plus, trade pour Russell Wilson, à minima, l'attente, c'est les playoffs, quoi. Donc, tu arrives déjà avec beaucoup de pression. Mais la réalité, c'est que la mayonnaise n'a jamais pris. De la première semaine à la dernière, ils marquent, j'ai l'impression qu'ils ont systématiquement marqué 16 points à chaque match de la saison. Wilson a été catastrophique. Certains pourraient dire il fallait virer Wilson, sauf que Wilson, il y a des contrats garantis à 250 millions, tu vois, il est invirable. Donc, il fallait changer quelque chose. Donc ils l'ont fait, et ça c'est bien. En plus, ils le font tôt, ce qui leur donne le temps d'interviewer avant tout le monde les meilleurs coordinateurs de la Ligue avant que les playoffs commencent. Moi, je trouve ça intelligent.
Bon, Raphaël, on a... Alors, c'est intelligent. C'est un moindre mal, on va dire, du coup, Raphaël.
Oui, oui, c'est un moindre mal. Vous l'avez dit tous les deux, on a senti que ça n'avait jamais pris. Et de mémoire récente, je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant d'embrouilles entre joueurs d'un même groupe. On a vu des vidéos par-ci par-là sorties des réseaux sociaux, les défenseurs qui s'embrouillent avec Russell Wilson, la ligne offensive hier qui bouscule Ripien, enfin des joueurs de ligne offensive qui bousculent Brett Ripien et qui l'insultent. Enfin, on a en plus le sentiment que le groupe, parce que des équipes mal coachées où les victoires ne sont pas là, on en a vu et il y en aura toujours, mais là on avait en plus le sentiment que les mecs étaient en train de tous se frapper les uns sur les autres en permanence. Donc clairement, Hackett n'avait même pas un peu le côté que pourrait avoir presque un Lovie Smith, où à côté les Texans t'as l'impression qu'ils se battent un peu pour leur coach malgré tout, qui donne un peu ce qui, là t'as l'impression que tout le monde avait abandonné. Donc effectivement, fallait arrêter les dégâts au plus vite et rattraper l'erreur de casting qui en était manifestement une à ce niveau-là. Enfin,
c'est vrai qu'il faut préciser le contexte. Donc le licenciement, il intervient au lendemain d'un match cataclysmique contre les Rams, perdu 51-14, où Russell Wilson lance 3 interceptions. Tu l'as dit, Raphaël, ça s'embrouille sur le bord du terrain entre les linemen et Brett Ripien. Il y a Randy Gregory qui se fait sortir 2 fois par son coach, qui finit par cogner un joueur des Rams, qui est suspendu du coup pour un match. Enfin, il y avait clairement une atmosphère de fin du monde. Et est-ce que le plus significatif d'ailleurs, c'était pas ces 51 points encaissés, qui était aussi le signe que cette défense qui a tenu toute l'année, elle aussi dit stop en fait, et là c'est fini, c'est la fin de tout quoi.
Bah effectivement, il y a ce signe-là, et par comparaison, je trouve que c'est le score, et quand tu vois les blessés qu'il y a chez les Rams, et comment les Rams s'en sortent face à ces Broncos-là, c'est là où tu te rends compte, ne serait-ce la différence de casting au niveau du coach. C'est que McVay, il a une équipe où les blessures se sont amoncelées dans tous les sens, et pourtant, alors qu'il reste que 2 matchs, tu pourrais dire que les Rams ne jouent absolument plus rien, et ils vont en coller 51 points. Une équipe des Broncos qui a quasiment pas de blessés en vrai. L'effectif est presque au complet du côté de Denver, à peu de choses près, disons. Une équipe de Denver qui, certes, ne joue plus grand-chose, mais à minima, tous ses joueurs, tous ses titulaires. Et pourtant, les mecs se font mais vraiment éclater dans tous les sens du terme par une équipe de remplaçants quasiment en face. Bah voilà, ça monte le coaching, ça monte un groupe qui en a plus rien à faire de rien. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de débat, quoi.
L'intérimaire, c'est Jerry Roseberg, qui a 67 ans et qui est passé. Alors, il était assistant cette saison pour les Broncos. Auparavant, il a été coordinateur des équipes spéciales des Ravens, coordinateur des équipes spéciales des Falcons, des Browns. Il est passé par les rangs universitaires. Bon, c'est pas un pédigré incroyable, clairement. Il semble être là pour un intérim, surtout à son âge. Voilà. On cherche quoi maintenant ? Pour les Broncos. Tu disais, Victor, ils ont pris de l'avance sur le processus d'entretien d'embauche. Toi, tu ferais venir qui en entretien d'embauche ?
Ben, un esprit offensif, mais un vrai esprit offensif créateur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter d'embaucher les coordinateurs offensifs des quarterbacks qui sont tellement intelligents qu'ils font le jeu eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les coordinateurs offensifs des Manning, des Rodgers, des Adam Gase et compagnie. Il faut prendre mecs.
Tu me poses un dilemme du coup. Patrick Mahomes, il va dans cette catégorie-là parce qu'il a un coordinateur offensif qui est plutôt coté sur.
Je pense que Bien-Aimé est un peu dans cette catégorie et c'est pas pour rien que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il fait des interviews et qu'il n'a pas de poste.
Alors tu prendrais qui ? Parce que moi j'avoue que j'avais un petit fait pour Bien-Aimé, tu vois. J'aurais bien tenté depuis le temps qu'on lui tourne autour.
Alors, au risque de paraître auto-centré, mais je pense que celui qui va avoir le plus d'interviews de tous, ça va être le coordinateur offensif Ziggs Station pour ce qu'il a réalisé. Après, je veux dire, un système offensif à la Eagles, c'est peut-être pas forcément ce que recherchent les Broncos. Donc après, ça sera à discuter. Mais je pense que c'est ce type de d'entraîneur jeune, parce qu'en ce moment, il y a un peu la course à la jeunesse, une sorte de mode comme ça. Mais pour autant,
Station, il a 37 ans, hein, le coordinateur offensif des.
Mais pour autant, des mecs qui ont réussi à gagner, on va dire, en créant vraiment un système et pas en se reposant sur un quarterback Hall of Famer qui fait tout.
Raphaël, Eric, Shane, pardon, Station, je vais y arriver, ça te parlerait ou tu vois d'autres candidats?
Pourquoi pas, effectivement, je partirais aussi sur de l'offensif en tout cas. Quelqu'un qui doit essayer de relancer Russell Wilson, c'est la priorité numéro un pour l'équipe de toute manière, relancer Russell Wilson. Vu l'investissement fait, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Ouais, pourquoi pas tenter Kellen Moore aussi du côté des Cowboys, pourquoi pas. Il y a la rumeur Sean Payton qui veut revenir, si t'arrives à le faire revenir. Alors moi, je suis pas persuadé que Sean Payton veuille de Denver. J'y crois non. Que très peu. Mais est-ce que tu ne tenterais pas le coup malgré tout? Enfin, je veux dire, si t'es Denver...
Les rumeurs, c'est qu'il aurait un fait pour les Chargers et... C'est quoi le deuxième qui me...
Sûrement les Cowboys, non? Parce qu'historiquement...
Oui, voilà, Chargers et Cowboys. C'est Chargers et Cowboys qui auraient ses faveurs et il serait à l'écoute si Indianapolis éventuellement...
Mais moi, j'ai un peu de mal avec la hype Payton. Enfin, il a réussi dans un environnement, une franchise. Il réussira peut-être ailleurs. Hein. C'est un très bon entraîneur, mais il a réussi une franchise, un quarterback, un système, etc. Et on a l'impression que c'est le mec qui va réussir partout, tout le temps.
Non, mais après...
On va pas lui reprocher de passer de fait virer, si tu veux.
Non, mais d'accord. Mais...
si tu veux, c'est dur de reprocher à Denver de tenter le pari Payton. S'ils doivent relancer Russell Wilson, c'est dur de leur reprocher de tenter Payton, parce que à l'heure actuelle, sur le marché des candidats, c'est peut-être celui qui peut, sur le papier, t'apporter le plus de garanties. Maintenant, est-ce que c'est le cas?
Tu vois, même auprès de joueurs qui étaient en train de se battre entre eux il y a deux jours, un mec qui a son pedigree et un Super Bowl, ça fait jamais de mal quand même en termes de poser, investir un peu, quoi.
Oui, parce non, que, ça c'est sûr qu'en termes
Station du haut de ses 37 ans, quand il va arriver devant Randy Gregory, j'espère qu'il est équipé, tu vois, moralement, parce que.
Oui, c'est sûr, mais c'est ce qu'on disait un peu de Pederson, même si c'est moins prestigieux que Payton, mais quand il arrive chez les Jaguars, le fait que t'es une bague, t'es un machin, t'es un truc, tu peux leur dire, écoutez. Et moi, je donne juste un dernier nom qui est peut-être un peu plus méconnu, mais qui, à mon avis, va monter. C'est Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions. Je pense qu'à un moment, il va être dans les interviews aussi.
Moi, je vais te dire, j'aime bien les deux, parce que Ben Johnson, on peut faire des blagues obscures sur le dopage des années 80, tu vois, dans les titres et trucs comme ça. Et Shane Station, on peut faire des blagues PlayStation, tu vois, des trucs comme ça peut être pas mal.
Mais je vois que tu as rejoint le clan jeu de mots de...
Ah bah moi, j'y ai toujours été, oui, moi, c'est pas le problème.
Il y a qu'un Grinch, hein, on connaît tous, mais on donnera pas de nom.
Messieurs, passons au match de la semaine.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les matchs de la semaine, et on commence avec la division de l'horreur. Ah, avant, j'avais un son, tu sais, toutes les premières années du podcast, Raphaël, j'avais un son, tu sais, avec le bruit de l'attaque dans la douche, là.
Ouais, de Psychose.
Le truc d'Hitchcock, ouais, de Psychose, voilà. J'aurais pu en mettre ça parce qu'on va parler de la NFC Sud. C'est une émission à thème NFC Sud. On va commencer avec l'équipe qui va le mieux, les Panthers, qui ont battu les Lions 37 à 23. Alors, évidemment que les Lions allaient pondre ça, hein, vu que Victor et Lucas sortaient d'une émission où on avait titré les Lions plus chauds que jamais, tout ça, bon. Alors, leur définition de chaud, c'est vraiment prendre 320 yards au sol contre les Panthers. Carolina qui a complètement marché sur Détroit, ils étaient à 240 yards au sol je crois à la mi-temps, ils étaient sur les bases du record historique de yards au sol sur un match. Bon, finalement ils ont un peu levé le pied, ils ont laissé Sam Darnold distribuer le ballon et tuer le match, parce que pourquoi pas, hein, tant que t'en as humilié l'adversaire, tu te dis on vient de lui marcher dessus, bon on va aussi faire briller Sam Darnold. Sam Darnold qui a été à 15 sur 22 pour 250 yards et un touchdown. Comment les Lions sont passés à ce point au travers? Et du coup je vais demander à Victor, puisque vous en avez parlé jeudi dernier.
Bah écoute, c'est un peu, pour le coup, Lucas avait nuancé en disant attention à ce que la défense ne retrouve pas ses mauvaises habitudes de début d'année. Bah, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé cette défense de début d'année qui, les yeux fermés, peut prendre 400 yards, qui ne sait plus plaquer, qui ne suit plus les assignements, qui loupe à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Bah écoute, à un moment, ça s'est vu. Ce qui est étonnant quand même, c'est que la faiblesse structurelle de cette défense de Détroit, c'est les airs. On n'était pas habitué à les voir se faire ouvrir comme ça au sol. Mais écoute, il y avait des formations assez renforcées du côté de Carolina. C'est assez marrant de voir que sur beaucoup d'actions, tu sais très bien qu'ils vont courir. Mais ça marche quand même parce que les blocs sont bien faits, parce que ça suit. Écoute, cette équipe des Panthers... Depuis le départ de Matt Rhule, elle a un vrai mojo. Et là, clairement, les Lions n'ont pas su suivre. On va dire qu'en attaque, ils ont quand même fait quelque chose de correct. Mais avec une défense comme ça, tu ne peux pas gagner le match.
Mais c'est ça qui est fou, en fait. Hein. Jared Goff est plutôt propre pour tout le boulot qu'il a eu parce qu'ils n'ont pas, pu courir. Hein. Ils n'ont fait que courir. Il a lancé 42 passes, 3 touchdowns, aucune interception. Donc c'est presque rassurant pour Goff, Raphaël. Mais on a identifié un petit point faible, c'est qu'ils prennent plus de 5 yards par course, quoi.
Ouais, 5 yards, t'es même bien gentil parce que si
alors
tu comptes...
C'est la moyenne sur la saison du coup après ce match. Là, ouais. Ils sont à 7,4 sur le match.
Ouais. C'est ça, 7,4 sur match. Et si tu comptes même les portées vraiment des deux titulaires, Foreman et Hubbard, t'es même plutôt à 8,5, 8,6 de yards par portée.
Hubbard est à 10,4 voilà. Sur 12 courses.
Ouais. Donc, autant dire qu'en NFL, quand tu manges 8 yards par course, tu peux pas gagner le match. On peut le tourner dans tous les sens que tu veux, c'est absolument ingagnable. Donc oui, ils sont retombés dans ces travers-là. J'avoue que je m'attendais pas à ce que Carolina le fasse après avoir déçu à Pittsburgh, parce qu'on s'était dit que Carolina était un peu retombée contre Pittsburgh, et finalement ils arrivent à rebondir de nouveau face aux Lions, c'est un peu la surprise. Après oui, donc c'est la faiblesse côté Lions. Maintenant voilà, ça veut dire qu'il va falloir rajouter de la défense contre la course à l'intersaison.
Bon, je reviens sur Carolina. Tu disais, on pensait pas qu'ils y arriveraient. Est-ce qu'au final, ils ont pas entre guillemets un plan de jeu? C'est-à-dire, voilà, 43 courses, 22 passes. C'est basique, c'est limité. Mais quand ça marche, bah tu peux rien faire, quoi.
Ah bah si, c'est le plan de jeu qu'ils ont depuis quelques semaines où ils s'étaient mis à gagner. Alors ça a pas marché contre Pittsburgh, mais en tout cas, ils ont recommencé à gagner grâce à ce plan de jeu là. Comme tu dis, c'est basique. Alors, quand ça marche, effectivement, c'est compliqué à arrêter parce qu'ils maîtrisent le chrono, ils prennent de l'avance au sol, ils avancent sans trop de difficultés, sans s'exposer à la passe. Et sans s'exposer à la passe avec Sam Darnold au centre, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est quasiment le plan parfait pour eux. Maintenant, il faut juste tomber contre les défenses qui te permettent de le faire.
Oui, c'est pas toutes qui permettent ça parce que 570 yards sur le match, c'est le record de la franchise. Ils existent depuis quoi, 95 je dirais. Bon, ça commence à faire quand même 25-26 ans d'échantillon, donc c'est leur plus gros match historiquement. En défense, ça reste quand même un petit peu limité, il y a deux sacs mais deux sacs donc de Jared Goff sur 42 passes, ça pourrait quand même être mieux. Victor, il y a beaucoup de jeunes, toi qui es beaucoup dans les process draft, tous les grosses matos, etc. Ça reste encore un petit peu décevant, non?
Complètement. Moi, j'attendais de cette défense qu'elle devienne un peu top 10 ou quelque chose du genre. Globalement, il y a Jesse Horn, le cornerback, qui est au niveau. Mais
qui se blesse, malheureusement.
Ouais, voilà. Mais après, les grosses matos même. Bon, Brian Burns, sur ce match-là, il fait deux sacs, donc on ne peut pas vraiment lui mettre de choses sur lui. Même Derrick Brown, qui était un top 10 de draft, etc., bah, année après année, on voit bien qu'ils ont peut-être déjà atteint leur plafond et que le plafond n'est pas bien haut. Donc je pense que cette défense, ça fait deux ans qu'on dit qu'il y a du potentiel. Finalement, le potentiel est quand même assez limité.
Mais pardon, je trouve que c'est surtout le front seven qui est plutôt décevant en fait, en termes de performance.
Oui, mais c'est là où ils ont investi, c'est ça qui est paradoxal. Ouais.
Parce qu'au final, quand tu regardes Jeremy Sheen, J.C. Horn, c'est quand même pas mal. Le backfield défensif, je trouve, se tient globalement. Mais ils sont pas aidés par comme tu l'as dit, sur 42 passes, il n'y a pas assez de pression. Alors bien sûr, après, il faut aussi équilibrer dans le sens où la ligne offensive des Lions, c'est top 3, top 5. Allez, si vraiment on veut être tatillon, on pourrait dire top 5. Mais bon, elle fait partie des meilleurs. Donc là, c'est un peu plus compliqué de mettre la pression. Mais effectivement, on pourrait en attendre un peu plus du front 7, je trouve, notamment.
Buccaneers 19, Cardinals 16. Les Buccaneers gardent la tête de la division devant Carolina, mais que ce fut dur. Ils étaient menés 16-6 dans le dernier quart. Ils se relancent avec un touchdown, un fumble provoqué par la défense et un field goal pour égaliser. Ensuite, Tom Brady signe un drive parfait en prolongation avec 6 passes réussies, 2 sur 6, pour aller chercher le field goal de la gagne. Ils sont là, ils sont en tête, on l'a dit, mais on voit toujours la même difficulté à avancer cette attaque. On ne peut plus dire qu'on attend grand-chose de l'attaque de Tampa Bay, je suppose, parce qu'on est quand même en semaine 17, bientôt. En tout cas, là, c'est le 16e match. Voilà, c'est une attaque poussive, c'est comme ça. Il y aura des éclats pour qu'ils s'en sortent, parce que Tom Brady trouve une sorte de mojo en fin de match, mais il ne faut plus attendre grand-chose, non, c'est très poussif. Je sais que Victor a une dent contre Mike Evans sur ce match.
Ah ouais, non, mais... Parce que bon, Tom Brady, en effet, là maintenant, il a compris comment il faut faire. il fait de la merde pendant trois quarts temps et puis il réussit bien dans le quatrième. Comme ça, tout le monde dit oh, vous avez vu cet homme des comebacks, c'est incroyable. Mais en attendant, normalement, tu ne dois pas te mettre dans cette situation et tu dois avoir 25 points d'avance. Mais Mike Evans, je suis désolé, le mec, il a give up dans sa tête. Quoi. C'est fini pour lui. Enfin, il n'a même pas envie d'être là. Il y a un vrai problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa relation avec ou Tom Brady ou les coachs ou je ne sais pas. Mais il est nul depuis le début de la saison. Il drop à peu près tout ce qui va vers lui et tout. Mais là, dans ce match-là, il avait clairement... Je me suis même demandé pourquoi il était toujours sur le terrain. Parce que clairement, il n'avait pas envie d'être là. Godwin, Gage et tout, les mecs, ils essayaient. Lui, il n'essayait même pas. Quoi. C'est catastrophique.
Raphaël, on n'attend plus grand-chose de Mike Evans et du reste de cette attaque.
Oui, effectivement, je rejoins Victor sur le côté envie de Mike Evans. Ça n'a pas transpiré, clairement, derrière l'écran. Et l'attaque... Ouais, je crois que maintenant, après cette semaine, on voit ce que cette attaque peut faire. C'est-à-dire qu'elle est très limitée. Et il faut que la défense lui permette, la défense ou que l'attaque adverse, on pourra aussi y revenir, mais soit que sa défense à elle ou que l'attaque adverse lui permette de rester dans le match pour espérer faire la différence sur un drive un peu clutch, un peu ceci, un peu cela. Mais enfin, objectivement, si en face, ça n'avait pas été les Cardinals, mais une des grosses équipes de la ligue, Tampa Bay, a priori, était plus dans le match assez rapidement. Donc, de toute manière, Bon, voilà, cette attaque n'avance plus. Byron Leftwich, qui avait commencé à se clouer une petite cote, à mon avis, en train de voir sa cote réduire progressivement. Et là, clairement, je vois pas d'où viendrait un sursaut, en fait, pour se mettre à être performant. Je vois pas ce qu'on peut imaginer, en fait.
Bah, c'est vrai qu'on parlait d'Evans. Moi, je trouve ça inquiétant de voir que c'est Leonard Fournette qui est partout, en fait, quoi.
Ouais.
C'est pas un bon signe quand c'est Leonard Fournette ton meilleur receveur et ton meilleur coureur en même temps. Tom Brady, ça fait 3 matchs de suite avec au moins 2 interceptions, ce qui est quand même pas non plus dans ses standards. Alors voilà, il se réveille sur la fin de match, etc. Il est pas le plus inquiétant là-dedans. Victor, tu nous le disais dimanche et c'est vrai qu'on le voit avec Mike Evans. Mais bon voilà, on sait ce qu'on a, ça passe. Ce que vous disiez pour revenir sur ce match, en tout cas, ça passe au chausse-pied face à des Cardinals qui bah, font un match honnête. Tracy McSorley, pour son premier match, est pas catastrophique. Ils sont là, ils sont vivants, même s'ils sont pas menaçants, et ça suffit presque à embêter Tampa Bay. C'est vraiment inquiétant, quoi.
Oui, bah, de toute façon, les Cardinals, ils ont joué avec leurs armes, hein, entre guillemets. Ils avaient presque plus rien à jouer. Le pauvre DeAndre Hopkins, il était libre toute la soirée, mais je pense que McSorley, il avait même pas le bras pour aller le chercher.
Mais et cibler 10 fois une seule réception, Hopkins.
Ouais, mais faut voir, cibler, voir les balles, ouais. Elles sont à 2 mètres de lui, quoi. Enfin, je veux dire, je veux bien, mais il n'est pas extensible non plus, mais enfin, bon. Non, mais voilà, Marco Wilson fait 2 interceptions et maintient cette équipe dans le match. Ils sont courageux, mais en attendant, je dis depuis des semaines que les Cardinals sont l'équipe la plus mal coachée de la ligue. Je commence à me dire que la seule équipe qui peut peut-être rivaliser, c'est les Buccaneers, quoi. Enfin, c'est catastrophique, vraiment.
Alors, je vous livre une petite info, parce que ça tombe au moment où on enregistre. En parlant des Cardinals, je vous jure que c'est le hasard, ça tombe à ce moment-là. J.J. Watt vient d'annoncer qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.
Ce qui m'étonne pas tellement, parce que je me suis fait la réflexion déjà la semaine dernière contre les Broncos, et ça a été à nouveau le cas cette semaine. Il est très bon pendant la première mi-temps, où il est dominant, il est partout, sur tous les snaps. C'était notamment le cas la semaine dernière contre les Broncos, où à la mi-temps, il était déjà à 3 sacks. Cette semaine, il n'a pas de sac à la mi-temps, mais il a pas mal de pression. Et en deuxième mi-temps, il se met à chuter de régime. On le voit beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est le moment où la défense des Cards est aussi un peu moins bonne et qu'il commence à encaisser des points à chaque fois. Donc je pense que physiquement, il a plus qu'une mi-temps. Il a plus qu'une mi-temps dans les jambes. Et vu le personnage que c'est, je pense que lui, être sur le terrain pas à 100%, c'est pas son dada, quoi. Soit il y va pour être à 100%, sinon...
Il aurait pu faire une Von Miller, écumer les prétendants pour jouer des petits morceaux et puis la fin de saison.
Si c'était ça, il serait pas allé à Arizona, soyons honnêtes.
Non,
ça, c'est vrai que c'est pas le meilleur choix de carrière qu'il ait fait.
Moi, je pense qu'il a fait un choix financier, parce que c'était un truc genre 30 millions sur 2 ans, ce qui était un peu inespéré à son âge. Mais ce qui est dommage, c'est que si tu veux... Les gens qui ont commencé à suivre la NFL dans la deuxième partie des années 2010 se souviendront que du J.J. Watt, souvent blessé, bon par séquence, mais pas incroyable. Mais quand on se souvient de la période 2012-2015, où il est 3 fois en 4 ans ou 3 fois en 5 ans meilleur défenseur de l'année et qu'il était juste le joueur le plus dominant de cette ligue. Mmh. C'était absolument incroyable. Il sera, je pense, au Hall of Fame parce que trois fois défensif player de l'année, je vois pas comment il y est pas. Hein. Même s'il n'y a pas de grosses performances en play-off ou autre. Mais pour le coup, c'est vraiment un what if parce qu'il n'a pas ces deux grosses blessures. Il peut être à 5-6 trophées du meilleur défenseur de l'année. Enfin, c'est une grande carrière, mais ça aurait pu être une carrière légendaire.
Je viens de vérifier, c'est sûr que on parle du contrat qu'il a pris là chez les Cardinals. C'est sûr qu'il fallait se mettre à l'abri après avoir pris que 100 millions d'euros au Texan. Bon, voilà, tu vois,
il a des factures à payer.
Il y a un train de vie, quoi, tu vois, il y a un train de vie à respecter. Tu peux pas te permettre d'aller dans une équipe qui gagne. Peut-être qu'il avait peur aussi de l'hydrocution, tu vois. Faut se mouiller la nuque.
Après, on peut penser que c'était un grand naïf comme nous à un moment. Il pensait que Murray Kingsbury, ça allait le faire avec Hopkins, tout ça. On peut aussi.
Il a tenté le rapport qualité-prix. Bon, JJ Watt, donc, ce sera à la retraite d'ici deux matchs. Les Browns 10, Saints 17. Les Saints restent aussi en vie dans cette merveilleuse division NFC Sud où tout le monde est en vie parce que c'est une division sympathique. Parce qu'on n'a pas donné le bilan, on le donnera dans les previews aussi de la semaine, hein, mais tout ce petit monde est en vie en négatif pour les playoffs. Négatif, c'était les températures aussi. Il faisait moins 13 degrés à Cleveland pour ce match, messieurs. Et je peux vous garantir que s'il y a bien une statistique qui est fausse en NFL, c'est celle de l'affluence sur les résumés de matchs d'ESPN, parce que si vous regardez bien, ils mettent en fait le nombre de personnes présentes dans le stade et le pourcentage de remplissage. Donc si le stade fait 50 000, ils mettent 50 000, 100%. Et donc pour le match des Browns, il y a marqué 100% d'affluence. Il faisait moins 13. Pour avoir regardé le match, je peux vous dire qu'il n'y avait vraiment pas grand monde dans le stade parce que les gens ne sont pas maboules au point de vouloir perdre des orteils pour regarder jouer Deshaun Watson au mois de décembre quand il n'y a pas de play-off.
Mais c'est parce que le stade des Browns, c'est principalement des season ticket holders et comme c'est des billets à la saison, ils le comptent quand même comme quelqu'un étant venu parce que le billet est distribué.
Mais ce que je veux dire, c'est que la stat, elle est sur les billets vendus, pas validés le jour même, quoi. Non, c'est clairement. Ça. Parce que le stade, il était à moitié vide. Donc, New Orleans menait 10-0 avant que des touchdowns de Tyson Hill et Alvin Kamara leur donnent l'avantage dans le troisième quart-temps. Pendant ce temps, la défense a complètement verrouillé Cleveland. Les Browns ont eu 3 possessions pour aller égaliser, mais ils ont échoué 2 fois sur 4e tentative. Victoire défensive quand même des Saints. On va pas dire qu'il y avait beaucoup d'attaques, Raphaël.
Non, il y avait pas beaucoup d'attaques. C'était un peu à ce genre de prestations défensives qu'on attendait de la part des Saints en début de saison. Ils l'ont fait à une ou deux reprises, pas beaucoup plus malheureusement pour eux cette saison. Mais oui, quand ils ont ce front seven qui arrive à mettre la pression, qui arrive à bloquer la course adverse, bah ça devient une équipe qui donne suffisamment d'armes à son attaque pour faire le minimum syndical et ça fonctionne. Voilà, donc, alors j'allais dire c'est presque trop tard, peut-être pas in fine parce que, comme tu l'as dit, ils sont toujours en course malgré tout, mais bon, ça continue à poser beaucoup de questions malgré tout pour cette intersaison des Saints et quel cap à prendre à l'intersaison, je trouve.
Minimum syndical, c'est le mot, hein, 244 yards quand même pour gagner ce match. Bon, après, conditions dantesques, hein, ouais, clairement. Victor, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de Kevin Stefanski là-dedans? Il y a la défense des Saints, bien sûr, il y a le mauvais temps, bien sûr, mais on dirait quand même que cette attaque a plus de potentiel que ça. Ils jouaient même mieux que ça il y a quelques semaines. On dirait qu'ils ont frappé un mur en deuxième mi-temps. Deshaun Watson n'est pas aidé par les receveurs, mais il n'a pas l'air d'être aidé par les choix non plus de jeu.
Oui, écoute, j'ai l'impression que dans cette équipe, l'attaque et la défense ne peuvent pas performer en même temps, en fait. Il y a une sorte de vase communicant où les deux vases ne peuvent pas être remplis en même temps. Oui, je pense que Deshaun Watson est un peu, comment dirais-je, en manque de rythme après 2 ans sans jouer, ça, ok. Mais enfin, il y a un moment, il faudrait quand même qu'on voit la reprise de rythme. Il est peut-être en effet pas aidé par un play call qui a l'air peu inspiré. Après, sur ce match-là, tu l'as dit, c'est difficile d'en tirer des leçons sur le play-call parce que des conditions ne sont quand même pas celles que tu es censé rencontrer toutes les semaines. On va peut-être lui passer sur ce match-là. Mais il y a un vrai problème là aujourd'hui sur cette équipe. Et honnêtement, je sais que Stefanski, il était censé sacrifier la saison avec l'arrivée de Watson et tout. Mais quand on voit à quel point c'était mieux avant et à quel point avec Watson ça ne marche pas, je me demande si Stefanski, il est encore là pour superviser ça l'année prochaine, quoi, parce que ça commence à montrer des limites.
Raphaël Stefanski, on commence à... Doucement, on le disait ces dernières semaines, là, ça commence à...
Ouais, c'est vrai que je suis aussi un peu sceptique sur ses grandes qualités potentielles ou pas. Après, je crois que malgré tout, avec la qualif en play-off l'an dernier, je crois que malgré tout, il s'est offert un petit peu de répit, tu vois. Et avec cette saison un peu étrange où Watson est là qu'une partie, mais pas trop... J'ai du mal à le voir prendre la porte tout de suite dans ce contexte-là. Ouais. Par contre, effectivement, si l'an prochain ça match pas, on va dire, avec Watson, ouais, mais je pense qu'il sera là encore l'an prochain parce qu'il va avoir la qualif en play-off de l'an dernier plus un Watson là que pour quelques matchs qui vont lui permettre de défendre son cas, quoi.
Ouais, non, mais clairement, il a ce bénéfice du doute là. Les Saints sont donc toujours vivants. On verra ce qu'ils peuvent faire la semaine prochaine avec un. Parce que là, c'est vraiment Andy Dalton sert pas à grand chose et c'est Alvin Kamara et Tyson Hill qui font tout le boulot, hein, grosso modo. Donc on va voir si c'est tenable dans un vrai match où il fait pas moins 13, où il n'y a pas l'attaque des Browns en rodage en face. Mais ils partent de loin, hein, les Saints, clairement. On passe à un match complètement fou qui a opposé les Cowboys aux Eagles. 40 pour les Cowboys, 34 pour les Eagles. Victor fait une drôle de tête, pourquoi donc?
Mais il nous manque les Falcons dans la division de la mort.
Ah non, mais ça, on le fait tout à la fin, ils servent à rien. non, soyons quand même un peu décents. Dans la division de la mort, on prend que ceux qui sont en position de se qualifier pour les playoffs. Les autres, là, on évacue à la fin. Match complètement fou, donc je disais, les deux équipes étaient à égalité 34-34 à 5 minutes de la fin. Interception de Gardner Minshew, field goal des Cowboys, fumble de Miles Sanders, field goal des Cowboys, et échec de Philadelphie sur quatrième tentative. Victor, est-ce que... C'était quand même un match rassurant d'accrocher Dallas avec Gardner Minshew aux commandes. Finalement, c'est avec votre quarterback remplaçant.
Je dirais, honnêtement, c'est pas tellement Gardner Minshew pour moi. Ce que je trouve en fait fascinant, c'est que cette équipe, elle passe à 6 points de battre les Cowboys à Dallas en réalisant 4 pertes de balles. 4 pertes de balles. Je veux dire, de toute façon, les deux matchs que les Eagles ont perdus cette année, c'est les deux matchs où ils ont fait 4 pertes de balles. Spoiler, ça s'applique à toutes les équipes. Quand vous perdez 4 ballons, en général, vous perdez le match. C'est rare que...
Après, tu dis c'est pas Minshew, mais il en perd 3 sur les 4 quand même.
Ouais, enfin, il y a... non, déjà, il y en a que 2, parce qu'il y a un fumble de Scott et un fumble de Sanders. Et après, sur les deux interceptions, il y a une interception où, en fait, c'est le receveur qui, littéralement, se fait arracher le ballon des mains. Donc,
ils doivent mettre l'interception de Scott sur lui. Je suppose que c'est une transmission parce qu'officiellement, elle est pour lui le fumble.
Ouais, non, il est plutôt. Enfin bon, il est pour les deux. De toute façon, une erreur de transmission, c'est pour les deux. Mais honnêtement, voilà, je pense que cette équipe, elle est. Et je suis désolé, mais elle est tellement supérieure aux Cowboys que même en perdant 4 ballons, même avec le quarterback remplaçant, sans Lane Johnson et sans Avante Maddox à la fin, elle perd que de 6 points à l'extérieur. Bon, moi, je suis tout à fait rassuré pour les Eagles et cette défaite ne m'empêche pas de dormir.
Raphaël, est-ce qu'ils sont tellement supérieurs aux Cowboys? Parce que c'est quand même une phrase forte.
Oui, oui. Écoute, phrase forte auquel je souscris plus ou moins, tellement supérieur, je ne sais pas, mais supérieur, oui, je rejoins là-dessus. Effectivement, vu le contexte que Victor a rappelé, être à 6 points et perdre à la toute fin face à Dallas, c'est quand même globalement rassurant. Ils ont aussi complètement annihilé le pass rush de Dallas.
Zéro sac, ouais.
Donc, alors bien sûr, aussi des fois ils prennent pet sec parce que Gardner Minshew se débarrasse peut-être un peu plus vite de la balle, etc. Mais le tout dans le tout, c'est quand même une prestation où ils ont su globalement bien s'ajuster, bien. Ils s'en sont bien sortis. Il y a juste une petite faiblesse qui m'a fait un peu peur quand même pendant la rencontre. À partir du moment où CeeDee Lamb a été aligné dans le slot, ils ont commencé à prendre des yards et des yards et des réceptions par Lamb. Voilà, j'ai juste été étonné qu'il soit aussi facilement battu dans le slot que ça. À surveiller. Alors après, il n'y a pas forcément de très grands receveurs dans le slot dans les autres équipes AFC. Quoi qu'un Justin Jefferson aligné dans le slot, ça peut être emmerdant. Mais
en fait, il profite de la blessure de Maddox, qui est justement celui qui joue dans le slot. Et forcément, quand tu n'as pas préparé ton plan de jeu et que tu dois faire rentrer le remplaçant en plein milieu du truc, il prend le bouillon. Mais c'est quand même difficile d'en vouloir au remplaçant.
Non, j'en veux pas tout au remplaçant, mais bon.
Mais ils ont profité. Les Cowboys ont fait un ajustement intelligent parce que malgré tout, on se réjouit pas des blessures, mais quand des mecs en face, un mec bon se blesse, et bah tu cibles cette position. C'est aussi ça le football.
Est-ce que Dallas est un peu en train de devenir, je sais pas si j'abuse, un peu une sorte de Vikings du moment, au sens où il y a une très belle attaque avec du potentiel, mais la défense commence quand même à prendre beaucoup de yards, ils en prennent plus de 400, et ils vivent un peu sur les turnovers, quoi. Parce que s'ils volent pas les ballons là, comme tu le disais, hein, ça fait grosse correction.
Bah oui, surtout que ça fait quand même 3 semaines que la défense est aux fraises. Enfin, Texans, Jaguars, là, on n'a pas la défense de début de saison. Donc là, c'est un peu comme les Browns, quoi. C'est vaste communicant. L'attaque commence à performer. Prescott redevient enfin le Prescott qu'on connaît. Voilà, parce que après son interception un peu stupide de début de match, derrière, il fait quand même un excellent match. Bon, il a en effet une mauvaise décision stratégique à la fin, mais qui est finalement sans conséquence. Mais cette défense aujourd'hui, elle me rassure pas. Le jour où, parce que ça va arriver, ils vont devoir aller en play-off à Philadelphie ou à San Francisco, attention, parce que ça peut prendre une valise de points.
Vikings 27, Giants 24. On parlait justement des Vikings. Victoire à l'arraché de Minnesota, évidemment, sur un field goal de 61 yards à la dernière seconde. Alors, bravo, ils gagnent encore. Et on en revient justement, c'est pour ça que je parlais d'eux juste avant, à parler de cette défense. Parce que Daniel Jones, qui a 334 yards à 30 sur 42 à la passe, avec tout le respect évidemment qu'on a pour Daniel Jones à chaque fois, mais autoriser 445 yards à l'attaque des Giants, c'est inquiétant, Raphaël.
Oui, c'est complètement inquiétant. Ils prennent 8 réceptions de Richie James, 8 réceptions de Isaiah Hodgins. Voilà, c'est des stats que tu ne dois pas autoriser face à ces receveurs-là quand tu es une équipe qui prétend gagner, aller au bout. Parce que je pense que maintenant, de toute façon, à 12-3, ils ne peuvent pas avoir d'autant ambition que de gagner le Super Bowl. Enfin, tu n'as pas un bilan de 12-3 pour dire « Ouais, bah, je vais en play-off pour voir comment ça se passe et on croise les doigts », tu vois. Donc, effectivement, cette défense est beaucoup trop inquiétante. Ça tient parce que l'attaque, mais... après, voilà, c'est ce qu'on dit sur les Vikings depuis 16 semaines. Bravo, Connell, de faire tenir tout ça et bravo d'empocher la victoire à la fin. Mais c'est structurellement, notamment en défense, structurellement, ça paraît trop faible pour pouvoir faire un rush en playoff maintenant.
Disons que c'est sûr que c'est mieux de pouvoir te reposer sur Justin Jefferson qui a 12 réceptions, 133 yards, TJ Hockenson, 13 réceptions, 109 yards et 2 touchdowns. C'est très très fort quand même en attaque. Pour le coup, Victor, on peut rien leur retirer. Ils ont des joueurs exceptionnels.
C'est fort, mais c'est unidimensionnel. C'est-à-dire que ce qui est quand même un peu frustrant semaine après semaine, c'est qu'on attend toujours l'apport de Dalvin Cook. Et en fait, cette équipe, moi je continue à dire que c'est l'anomalie statistique du siècle. Sur 12 victoires, ils en gagnent 10 de moins de 7 points, je crois, 7 points au moins, si je ne dis pas de bêtises. Et globalement, cette équipe, elle peut être en négatif, qu'il n'y a même pas de scandale. En fait, elle est improbable, cette équipe. Elle est improbable. Elle gagne tous les matchs. J'aimerais pas être supporter de Vikings. Hein. Tu fais 17 arrêts cardiaques par saison. Non, mais vraiment, enfin, je pense à Axel chez nous, qui est supporter de Vikings. Je crois qu'il y en a un deuxième, mais je ne sais plus. Mais oui, cette équipe, mais il y a un tel talent chez Justin Jefferson, chez Kirk Cousins, hein, aussi, il y a un moment, faut dire, Kirk Cousins cette année, il est régulier comme il l'a rarement été dans sa carrière. TJ Hockenson, c'est un peu la cerise sur le gâteau depuis son arrivée, et puis même KJ Osborne, Adam Thielen, enfin, il y a un talent sur le niveau aérien qui est presque inégalé en NFL. Et ils arrivent à faire tourner ça, donc bravo à eux. Ils gagnent sur un field goal de 60 yards. J'ai presque envie de dire, tu te dis, ça va continuer jusqu'à la fin de la saison, ils vont gagner Super Bowl, et puis on parlera de l'équipe bénie par les dieux, et puis on apprendra qu'ils sont tous allés à Lourdes avant le début de la saison. Mais il y a un truc, quoi, c'est pas possible.
On verra bien en tout cas. Et dans l'autre sens, il faut toujours reconnaître aux Giants, là on se répète un peu au fil de la saison, mais il faut reconnaître aux Giants le mérite de s'accrocher, le mérite d'être bien coaché, le mérite de jouer sur leurs forces. Ça se résume toujours à ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient en défense parce qu'ils prennent beaucoup de yards, mais finalement ils prennent que 27 points et ils exploitent au maximum les failles défensives adverses, mine de rien, Raphaël.
Toujours ça, effectivement. Cette défense, et particulièrement, je trouve, ce gros front seven, voire ligne défensive surtout, hein, qui est capable. À l'image de Leonard Williams et de Dexter Lawrence, de mettre vraiment en difficulté les lignes offensives adverses et essayer de casser au maximum le rythme de passe du quarterback adverse. Donc voilà, ils sont portés par ça. Et en attaque, c'est intelligent, c'est pas spectaculaire, c'est pas, mais comme tu dis, c'est suffisamment bien coaché pour aller chercher quelques failles. Bon, voilà, après on connaît leurs limites après 16 matchs, et je pense que Brian Daboll en est d'ailleurs lui-même tout à fait conscient des limites de son équipe, et ça a travaillé quoi. Enfin.
Mais ils sont toujours là, hein. Victoire la semaine prochaine contre les Colts, et ils seront qualifiés pour les playoffs.
Ce qui paraît
même,
pas improbable vu l'état des...
c'est oui, tout à fait. 49ers 37, Commanders 20, victoire dominante des Niners qui menaient 21-7 dans le troisième quart, 30-14 pardon, dans le dernier. Ils ont mis un peu de temps à démarrer, mais on a des Niners sûrs de leur force. Nick Bosa et la défense ont pris les choses en main. Je vois une victoire là qui bouge la tête dans tous les sens d'admiration pour Nick Bosa, je crois.
Bah, d'admiration pour cette équipe. Je pense que c'est l'équipe qui va arriver en playoff avec le plus de confiance. Hein. Et c'est même pas un débat. C'est tout va bien. C'est-à-dire que même quand McCaffrey fait un match moyen, on a George Kittle qui nous fait une masterclass. On a Ray McCloud sorti des enfers qui va faire un touchdown longue distance. La défense, bon bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est la meilleure défense de la ligue. Et Nick Bosa sera le meilleur défenseur de la saison parce que ça récompensera et sa performance individuelle et une performance collective qui doit être récompensée. Et je pense que personne, même si malgré tout talent de Micah Parsons, personne ne va être choqué par ça.
Non, et puis il y a eu la baisse de régime de Dallas dont on parlait.
Exactement, parce qu'on sait que la performance de la défense au global est aussi prise en compte. Non, bah, c'est une équipe qui gagne facile. Chaque semaine, c'est facile.
Il y a Brock Purdy qui fait sa meilleure imitation de Jimmy Garoppolo avec un 15/22, 234 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Ça gère très très bien, Raphaël.
Ouais, ça gère très bien. Et quand je trouve que c'est Brock Purdy qui incarne aussi très bien ce que Victor disait, cette confiance avec laquelle les 49ers vont arriver en playoff, c'est que. Ils se retrouvent avec leur troisième quarterback de leur saison, un mec drafté à la toute fin de la, mais littéralement à la fin de la draft, et pourtant ça gagne quand même et sans difficulté. Donc forcément l'équipe collectivement ne peut que se sentir vraiment supérieure à partir du moment où avec ton troisième quarterback t'as l'impression que tu peux quand même le faire et aller au bout. Parce que je pense qu'il y a des équipes dans la ligue, demain tu blesses leur quarterback, bah elles s'effondrent parce que psychologiquement t'as l'impression que la saison va être mise de côté quoi. Et là, c'est pas le cas, donc je rejoins Victor. Là, ils sont lancés comme une fusée et ils vont être compliqués à stopper en NFC.
Ce qu'ils ont réussi à faire aussi, c'est d'envoyer Taylor Heinicke sur le banc. Alors, c'est un truc qu'on n'attendait plus forcément, j'avoue qu'on s'attendait plus à revoir Carson Wentz. Et pourtant, Carson Wentz est de retour, 12 sur 16, 123 yards, un touchdown. Je rappelle, je te vois hausser les yeux. Quel est l'intérêt de faire ça maintenant? J'avoue que ça m'échappe aussi.
Je sais absolument pas. Alors, c'est vrai que Heinicke avait un peu pris la place de Wentz parce que Wentz était un peu blessé. On n'a jamais vraiment su si c'était par blessure ou par choix que Heinicke était monté sur le terrain. Mais bon, c'est un peu étonnant ce choix de Rivera. Ça fait un peu, ça fait un peu match désespéré après avoir perdu contre les Giants. De se dire bon allez, faut que j'essaie de relancer une coûte que coûte la qualif en playoff. Je retente Carson Wentz, mais je sais pas trop. Enfin bon,
Victor, tu y crois encore en Carson Wentz, toi qui l'as connu tout petit comme ça?
Non mais c'est complètement débile comme décision. Enfin il y a un moment.
Bon bah voilà.
Je veux dire non mais tu es. Ils sont encore mathématiquement, je pense, en playoff. Enfin, je pense que c'est eux, septièmes aujourd'hui.
Oui, ils sont septièmes, là.
Tu as une équipe qui marche beaucoup mieux avec Heinicke qu'avec Wentz. Déjà, au milieu de la semaine, je fais une interview pour dire Heinicke, c'est une semi-buse. Je pense à remettre Wentz. Et là, alors que Heinicke fait même pas un match cata, il fait juste un match moyen, tu benches pour remettre Wentz, dont les choses les plus connues ces dernières saisons, c'est d'avoir choke justement dans les matchs d'accession au play-off. Enfin, il y a un moment, c'est quand même, il n'y a aucune logique, quoi. Catastrophique.
Je pense qu'il n'y a personne qui sera plus soulagé dans le monde que les supporters des Commanders quand Dan Snyder va vendre et que le nouveau proprio va virer à la fois le coach et chercher un nouveau quarterback. Je pense que c'est vraiment le grand ménage quoi, qui est nécessaire. Propriétaire, coach, quarterback, tout le monde doit dégager dans cette équipe.
Rivera, c'est quand même un mec qui est connu pour être conservateur. Enfin, ça ne lui ressemble pas du tout en plus comme décision. Enfin, c'est très bizarre. Ouais.
Bon, et bien petite pause et on passe à la suite des machines à déstabiliser André Gérard.
We'll be right back. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On enchaîne avec la deuxième partie des matchs de la semaine et on bascule notamment dans la conférence AFC avec les Bills qui s'imposent 35-13 contre les Bears. Match difficile au début pour Buffalo, dans le froid aussi, on rappelle, hein, y a plein de matchs qui étaient impactés par le froid glacial et polaire qui touche les États-Unis en ce moment. Chicago menait 10-6 à la mi-temps, Buffalo a marqué 4 touchdowns après la pause pour l'emporter. C'est le jeu au sol qui a porté l'équipe avec 254 yards de total pour les Bills. Alors oui, il faisait froid, mais on a quand même un Josh Allen qui a fait quelques erreurs un peu vilaine. On lui pardonne avec la météo, Raphaël, ou on s'inquiète? Parce que je trouve qu'il accumule un peu depuis quelques semaines.
Ouais, je sais pas si on lui pardonne avec la météo, dans le sens où c'est pas la première fois cette saison qu'il nous fait des choses un peu comme ça. C'est le cas depuis un mois et demi, je dirais, où on a quelques erreurs. Alors après, il y a suffisamment de talent chez Josh Allen lui-même et chez le reste de l'équipe pour se relever de ces petites erreurs-là. Mais oui, on voit qu'il est un peu plus inconsistant que ce qu'on aurait, irrégulier en tout cas, que ce qu'on aurait aimé qu'il ne soit. Donc je lui pardonnerai pas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'ils aient enfin un jeu au sol qui soit sorti. Alors après, c'est tellement un épiphénomène qu'on va peut-être attendre de voir un deuxième match pour savoir si ça peut être plus que ça. Mais bon, victoire malgré tout, tranquille.
Victoire, tu retiens quoi? Les erreurs de Allen ou les 254 yards au sol?
Je crois que les erreurs de Allen, va falloir vivre avec, parce que moi j'avais l'impression qu'il balançait interception sur interception cette saison. Mais en réalité, cette saison, il en a balancé 13, d'accord ? L'année dernière, il en balance 15. Donc je crois que ça fait partie intégrante de son jeu. C'est un peu comme des Brett Favre, si tu veux. Il faut accepter que son jeu implique de lancer beaucoup d'interceptions. Beaucoup, tout étant relatif par ailleurs, mais 15, ça reste quand même important.
Après, oui, selon les standards actuels, ouais, c'est pas mal.
Voilà, après, ce qui est inédit, c'est en effet que le jeu au sol aide. Bon, c'était face à la défense des Bears, donc il faut tout relativiser. Mais malgré tout, s'ils veulent réussir en play-off, avoir un jeu au sol qui performe, ça peut être une vraie bonne nouvelle. Surtout, autant Singletary, on connaît ses qualités et ses défauts, autant James Cook, le frère de Dalvin, qui avait été un peu mis au placard en début de saison après un fumble en match d'ouverture. Là, il commence vraiment à trouver les ouvertures. Et si lui, il monte en puissance, ça peut être un vrai facteur X en playoff. Donc, à surveiller.
Le plan de jeu défensif, c'était de tenir Justin Fields. Ils l'ont fait, fin de l'histoire, Raphaël.
Oui. Ouais, non, mais.
Très bien. J'aime ces conclusions simples et efficaces quand on a un peu de retard sur le conducteur. Victor, oui.
Oui.
je le mets à l'épreuve, voir s'il arrive à se contenter d'un oui. Les Chiefs 24, Seahawks 10. Les Chiefs qui s'imposent logiquement de manière autoritaire et surtout de manière défensive. Seulement 2 sacs, mais beaucoup de pression. 8 pour Chris Jones, George Karlaftis très présent aussi. 4 joueurs avec au moins 4 pressions. Est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'hiver, cette défense? Ou alors est-ce que Victor a déjà une objection? Parce que je l'ai vu hocher la tête quand j'ai dit logiquement.
Ah non, quand t'as dit victoire autoritaire, ouais. Alors on n'a pas vu le même match, hein.
Bah de la défense, quoi.
Ouais, enfin ils sont passés à 2-3 cagades de perdre ce match. C'est plus Seattle qui s'est foiré dans les moments les plus clutch, ce qui leur a permis de garder 14 points d'avance. Mais alors, moi, ce match, vraiment, j'ai trouvé Kansas City en manque d'imagination.
Après, il fait moins, on le rappelle, il fait moins 1000 aussi, hein, ce genre-là.
C'est vrai que Kansas City... Déjà, hors Blizzard, il fait froid. Mais voilà, je les ai trouvés sans inspiration. Je les ai trouvés limités. Et j'ai trouvé qu'ils ont eu beaucoup de chance que Seattle se tire des balles dans le pied, notamment en début de match où il y a rapidement 17-0 ou un truc comme ça. Moi, ils ne m'ont pas rassuré du tout, les Chiefs. J'ai même trouvé ça un peu... Alors, Lucas aime bien parler de suffisance quand il s'agit des Chiefs. C'est peut-être ça, hein, mais
je te trouve dur. Je me dis, c'est pas un match facile, évidemment, dominé de la tête et des épaules, mais la défense est là, tu gagnes de 14 points. Tu vois, les Seahawks font des erreurs aussi parce que ta défense est là. C'est un match sans, pour moi, c'est un match sans histoire, en fait, pour une équipe qui vise le titre. Raphaël, toi, tu l'as vu comment ?
Un peu entre les deux, j'ai envie de dire. Je trouve que l'attaque a pas assez performé par rapport à une défense de Seattle qui était vraiment en difficulté ces dernières semaines. Il y a beaucoup de séquences avec plusieurs punts auxquels les Chiefs ne nous habituent pas. Donc là-dessus, j'ai trouvé qu'en attaque, ça aurait quand même pu être plus performant que ça. Et ils auront besoin d'être plus performants que ça, d'ailleurs, pour aller au bout une nouvelle fois. Après, oui, en défense, ils ont réussi à bloquer Seattle au moment où ça compte le plus, où ça comptait le plus. Et pour moi, c'est là où on retrouve ce classique, presque j'ai envie de dire, défense des Chiefs qui prend des yards, mais qui arrive à stopper au moment où ça compte pour aller loin. Donc, ouais, un peu entre les deux. Je suis pas catastrophé ni horrifié ou particulièrement inquiet, mais c'est pas non plus une grosse victoire autoritaire, quoi.
Ils vivront avec ça, en tout cas pour les Seahawks. Ça se complique dans la course aux playoffs. C'est une des belles hypes. On en reparlera jeudi, mais il y a quelques belles hypes de début de saison qui se sont quand même bien, bien éteintes. Hein. Les Seahawks en sont là. Donc, c'est surtout défensif, Victor ?
Oh, c'est...
Donc, c'est l'attaque qui commence à se prendre les pieds dans le tapis aussi ?
Alors, on va dire que l'attaque a sauvé la défense pendant le début de saison et que l'attaque revient à un niveau raisonnable. Et que, en effet, la défense qui a eu du mieux pendant quelques semaines est repartie dans ses travers, et que du coup, elle plombe l'ensemble. Mais on va dire que tu peux pas demander raisonnablement à Geno Smith et cette ligne offensive en construction de porter l'équipe pendant 17 matchs dans l'année. Il y a un moment, il faut que ta défense t'aide, et comme la défense n'aide absolument pas, oui, là, ça devient compliqué puisqu'ils sont derrière Giants, derrière les Commanders. À égalité avec les Lions et les Packers, bon, ça commence à sentir un peu le roussi. Je n'ai plus en tête quels sont leurs prochains matchs, mais clairement, là, ça commence à devenir difficile.
Les Ravens 17, Falcons 9. On parlait des Falcons tout à l'heure. Les voilà, Victor. Pas vraiment un match de haut vol, hein, mais alors vraiment, vraiment pas. Un seul touchdown dans ce match par DeMarcus Robinson dans le second quart. À ce moment-là, Baltimore mène 14-0 derrière. Il n'y a plus grand-chose. Les Ravens qui tiennent quand même vraiment uniquement, on en revient à la défense. Là, Raphaël, il n'y a plus que ça hein, dans ce match. Il est vraiment temps que Lamar Jackson revienne.
Ouais, effectivement, en attaque, c'est tellement minimaliste avec course, course, course et puis une passe. Et on espère que ça fasse un minimum. Ça fait un peu un minimum. Enfin, ouais, minimum de chez minimum.
Pas contre Atlanta, quoi.
Oui, voilà. Donc, effectivement, à partir du moment où le plan de jeu est aussi limité en attaque, il reste qu'à espérer, qu'à construire ton succès sur ta défense. Ce qu'ils arrivent à faire parce que c'est une défense avec suffisamment de talent. Après, à nouveau, c'est aussi une grosse perte défensive face à une attaque. Comment décrire l'attaque d'Atlanta à l'heure actuelle, tu vois, ça serait un peu plus dur de refaire la même perf défensive face aux Bills ou aux Bengals. Disons oui. Que l'adversaire te permet aussi un peu plus facilement d'être très bon en défense.
C'est vrai que, bon, voilà. Mais après, c'est ce qu'on disait, c'est minimaliste au sens où c'est 184 yards au sol avec 34 courses pour 17 passes. Et puis,
mais ils ont raison. Ils ont raison parce que, pardon, mais la semaine dernière, ils ont essayé de passer un peu plus et ça leur est retombé dessus avec des pertes de balles très bêtes sur le jeu de passe. Au moins, là,
Bon, en tout cas, faut espérer quand même un minimum le retour de Lamar Jackson parce que, bon, Victor, on va pas dire qu'on s'est ennuyé, mais.
Ah, c'était un match de merde. Si, tu peux le dire.
Voilà. J'avais pas le. C'est-à-dire que d'habitude, on essaie de pas dire des gros mots dans l'émission. Tu vois, toi, t'es arrivé comme ça, t'es nouveau et tout, mais tu sais que les règles sont strictes.
Mais moi, c'est ma patte. Dans la preview, j'ai toujours dit des gros mots. Hein.
Ah bah ouais, mais non, normalement.
À l'américaine.
Non, mais il y a un moment. Oui, il faut faire des bips.
Mais non, mais j'ai l'air de quoi après? Moi, j'arrive devant mes élèves en cours et je leur dis faut pas être vulgaire dans les émissions.
Mais oui, mais
et
je ne suis pas journaliste.
Ils disent oui, mais Victor Roulier,
tu leur diras que je suis comptable et pas journaliste.
Et ils me disent, mais en plus, c'est une star, il a fait 1000 likes sur Twitter aujourd'hui, donc c'est un influenceur.
Merci Ribéry. non, mais écoute, alors. Moi, ce qui m'a pris...
Alors, est-ce que Desmond Ridder te plaît? Parce que l'enseignement pour Atlanta, voilà.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de voir Desmond Ridder. Écoute, il y a du mieux. Il lance déjà mieux que Mariota, bon, ce qui est quand même pas difficile à faire, mais c'est déjà ça. Il a limité les erreurs. Il a été un peu plus intelligent dans son déplacement dans la poche que lors du premier match. Écoute, il y avait du progrès. C'est pas Byzance, hein. Mmh. Mais il y a eu du progrès. En plus, il n'a pas été forcément aidé comme Atlanta a aidé d'habitude par le jeu de course. Donc, il a fait comme il a pu. Il a une vraie connexion avec Drake London, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
C'est une équipe de rookies. Hein. London, Allgaier, Ridder, ils sont tous rookies. Hein.
Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est une équipe qui est en construction. Je trouve ça un peu dommage de lancer Ridder à 4 matchs de la fin parce que du coup... Tu vas avoir des discussions sur est-ce qu'on draft un quarterback alors que si tu avais lancé il y a 10 semaines, peut-être que tu aurais la réponse. Bon, mais en tout cas, c'est en progrès. Mais c'est sûr que là, même s'ils ne sont pas éliminés de la course, à partir du moment où tu as un match de retard sur les 3 équipes de ta division, enfin même 2 matchs sur Tampa Bay, là, je pense que par contre, les playoffs, tu peux oublier.
Et on notera quand même que Victor en appelle à la fois à notre public jeune avec des vulgarités et à notre public beaucoup plus âgé avec des expressions comme « c'est pas Byzance », ce qui nous permet quand même de jouer sur les deux tableaux, c'est pas mal. Merci beaucoup Victor de raccrocher les wagons de nos deux publics parce que tu vois, quand t'as dit des gros mots, les plus anciens auraient pu se sentir un peu largués et hop, tu les raccroches tout de suite avec un « c'est pas Byzance ».
Mais j'irai mettre 1€ dans la
tirelire,
dans la tirelire à gros mots, mes filles seront contentes.
Ah, très bien. Très très bien. Les Colts, si on va rester avec Victor parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour la cause. Les Colts 3, les Chargers 20. C'est un acte héroïque hein, qui a eu lieu lundi soir. Moi, je me préparais tranquillement. Je finissais ma journée de boulot du lundi. Bon, je me disais, je vais me coucher tôt. Il y a ce Colts Chargers. Et là, Victor surgit de nulle part. Mais vraiment, tel un héros sur son cheval dans une bataille, tu vois. Le drapeau en avant et tout, le visage peint. Et là, il me dit, tu veux que je prenne le match de la nuit? Alors là, moi, évidemment, je me suis dit, bah, je trouve un volontaire comme ça, bon, je vais pas me gêner, tu vois.
Je t'ai même pas posé la question, je me suis imposé.
C'est vrai.
Voilà. Ah oui, c'est ça, t'as dit, je prends, c'est pour ça que je dis surgit, tu vois. Ouais. Donc là, moi, je me dis, évidemment, quel pigeon, tu vois. Ouais. Et là, Victor a senti l'arnaque, mais il était trop tard, il était 3h du matin, et il nous a envoyé un message sur le Slack de la rédaction en disant, plus jamais je ne demande un match du lundi soir avec les Colts. Donc ça s'est passé comment, Victor, ce match?
Écoute, oui, j'avais pris par fidélité à Nick Foles. J'ai été bien récompensé, dis donc. Donc
je vais... Cet homme est beaucoup trop fidèle.
je vais pas dire de vulgarité. Du coup, ce fut un match fort peu plaisant.
Voilà, 3 interceptions pour Foles. Il a pris 7 sacks aussi, quand même.
Oui, non, mais c'était nul. En fait...
A priori, c'était moins plaisant pour lui que pour toi encore, hein, parce qu'il s'est fait étaler 7 fois, quand même.
Mais limite, tu vois, bon, Foles, il a pas joué depuis un an. Il a eu une carrière en dents de scie, il loupe son match... la ligne offensive, je veux dire, elle est quand même... Il y a 2 ans, c'est la meilleure ligne de la NFL. C'est les mêmes mecs. Hein. Ils ont juste été payés entre-temps. Et ils sont juste nullissimes. C'est hallucinant, quoi. Ça, vraiment, Quentin Nelson, j'avais envie de fracasser à travers mon écran. Et de l'autre côté, je n'ai pas trouvé que les Chargers, c'était particulièrement bon. Enfin, ils ont galéré offensivement avec un play call... très peu inspiré, et une ligne offensive, elle aussi, à la ramasse. Et finalement, c'est la moins mauvaise des deux équipes qui a gagné.
C'était un peu ça, moi, le propos, en fait, au-delà des blagues et tout ça. C'était ça que je voulais t'entendre dire, c'est qu'en effet, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est presque que les Chargers n'ont pas l'air d'avoir gagné si facilement ou de manière si convaincante que ça, alors qu'en face, c'était la galère.
Pardon, c'était...
T'as eu une coupure?
J'ai freeze mentalement parce que j'étais en train d'assimiler ce que tu me disais. Oui. Non, mais je pense effectivement que moi, en fait, quand je regardais cette équipe des Chargers, je me disais que cette équipe-là, enfin, en jouant comme ça, tu gagnes pas un match de playoff. Surtout en AFC. Enfin, je veux dire, c'était sans imagination. En gros, c'était un play call pourri en première et deuxième, et en troisième, c'était « Oh, bah, en fait, on a Justin Herbert, hein, donc on va espérer qu'il nous sauve, qu'il nous sorte de là. » Enfin, il y a un moment, Justin Herbert, il peut pas tout faire. Il fait un bien meilleur match que ses stats ne le montrent, parce oui, qu'il
perd de ballon. Ouais.
Il n'est pas mis dans des bonnes dispositions, honnêtement. Mais alors, enfin, il y a un moment, ça manque d'imagination, ça manque de tout, quoi.
Raphaël, est-ce que ils sont inquiétants malgré la victoire, les Chargers ? On parle souvent de bonnes défaites. Y a-t-il des mauvaises victoires ?
Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Écoute, je sais pas. Effectivement, offensivement, c'est pas ce qu'on aimerait voir des Chargers et c'est pas ce qu'on attend de cette équipe. Je rejoins Victor, ça manque quand même de créativité, ça manque de passes en profondeur. Je trouve que Mike Allen n'est pas assez ciblé alors que c'est un des meilleurs receveurs dans les réceptions en contestation.
Mike Williams ou Keenan Allen?
Mike Williams.
Mélangé.
Ah pardon,
t'as dit Mike Allen. Oh, bah,
Mike Williams est un des meilleurs receveurs dans les réceptions contestées et je trouve qu'il n'est pas assez recherché. Donc voilà, plusieurs choses m'embêtent là-dessus. La ligne offensive était quand même pas tip-top non plus. Donc ça, c'est sur le côté embêtant. Après, si on veut voir l'autre moitié du verre, j'ai presque envie de te dire que cette série de 3 victoires des Chargers contre les Dolphins, contre les Titans, contre les Colts, contre 3 équipes qui allaient pas très bien, mine de rien, ils sortent avec 3 victoires au moment où ça comptait le plus pour aller en playoff. Je trouve que c'est le genre de match, enfin c'est le genre de série que les Chargers n'auraient pas fait les années précédentes. Ils auraient été en perdre un ou deux bêtement contre des équipes moins bonnes parce que voilà. Là, mine de rien, ils vont les remporter. Et je trouve avec une défense qui a vraiment élevé son niveau de jeu malgré tout, je trouve, par rapport au début de saison. Donc, je crois pas. Je crois que malheureusement, en termes de coaching, etc., ça passera pas pour faire un rush en playoff avec 3-4 victoires de suite. Voilà.
Alors, il faut le scénario où les dirigeants osent. Ils sortent au premier tour des playoffs avec une mauvaise perf, et là, tu vas chercher Sean Payton.
Bah, écoute, je sais pas, hein, mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que par rapport à ce que Victor dit, etc., pareil, je les vois pas faire 3-4 victoires de suite en playoff. Mais maintenant, ils y sont. Ils y étaient pas. C'est les premières playoffs de Justin Herbert. Donc,
c'est déjà ça.
Donc, une partie du contrat est remplie, j'ai envie de te dire.
C'est déjà ça. Les Steelers 13, les Raiders 10. Une souffrance footballistique dans le froid aussi. Les Steelers s'en sortent grâce à un touchdown de George Pickens à 46 secondes de la fin. Derek Carr termine avec une interception, comme il se doit. Raphaël, tu nous as dit pendant ce match comment les Raiders perdent ce match. Alors, je te donne un élément de réponse. Je dirais en gagnant seulement 207 yards et en perdant 3 ballons.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Raiders se font quasiment braquer parce qu'ils sont devant tout le match, sauf la dernière minute. Je crois que c'est seulement à la dernière minute que Pittsburgh repasse devant au score.
46 secondes, ouais.
Donc, malgré tout, à 46 secondes près, les Raiders n'ont jamais été menés dans le match, n'ont jamais été menés au scoring, malgré le peu de yards qu'ils font, comme tu l'as dit. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors après, c'est pas la première fois cette saison qu'ils se font remonter au score. Donc, de toute manière, ils ont le record cette saison de remontée subie. Donc, effectivement, on n'est plus à une près, mais c'est assez catastrophique. Parce qu'on avait l'impression que ces dernières semaines, ils s'étaient un peu relancés. Et ils retombent à nouveau dans des espèces de travers. La ligne offensive, ça va pas. Derek Carr. L'an dernier, on avait l'impression que ça y est, c'était devenu un vrai patron, même l'attitude en dehors du terrain, comme il avait soutenu, enfin, comment il avait remobilisé l'équipe après le départ après le licenciement de Gruden, après l'accident Ruggs. Enfin, on avait le sentiment qu'il s'était passé quelque chose. Et là, j'ai l'impression de retrouver le Derek Carr des mauvaises années où il a peur. On a l'impression qu'il a peur derrière sa ligne offensive. Il précipite les lancers. Il est pas précis. Donc je sais plus. J'ai l'impression que Derek Carr va finir à Indianapolis l'an prochain. Je sais plus.
C'est des trucs durs là quand même. Bon, en tout cas, il n'y a plus de connexion avec Davante Adams non plus. Hein. Victor, il n'y a plus rien là.
Non, mais écoute, quoi de plus beau que Steelers Raiders 50 ans après l'Immaculate Reception, qui était déjà un Steelers Raiders.
Moi, j'allais te dire ça. De toute façon, c'est le storytelling NFL. Quand tu as un de tes joueurs historiques qui meurt dans la semaine, tu peux pas perdre le dimanche.
Non, mais
c'est le contrat. Tu vois, par exemple, Pelé, il aurait cassé sa pipe il y a 3 semaines, le Brésil champion du monde. Mais, non, mais question de timing, ça c'est pas fait.
L'Immaculate Reception, c'est une victoire une victoire sur le fil des Steelers contre les Raiders. Bah là, 50 ans après, pour rendre hommage à Franco Harris qui est mort en plus la semaine dernière, il gagne sur une action à la dernière minute. Bah c'est beau. C'est beau, voilà, moi, moi quitte à pas m'enflammer sur le contenu du match, alors, je m'enflamme sur le storytelling.
Voilà. Ouais, j'allais dire c'est beau, c'est pas tout à fait ce que j'aurais retenu de ce match. Mais bon, après, les Steelers, c'est 350 yards en attaque, une attaque équilibrée, leur playmaker en défense. Ils sont toujours dans la course au playoff, on en parlera plus en détail dans l'émission preview de jeudi. Mais encore une fois, sur ce match, bon, c'est un peu un braquage sur le scénario, mais c'est pas immérité au sens où au moins ils sont cohérents par rapport aux Raiders. Quoi.
Moi, je trouve qu'ils vont très bien, les Steelers.
Je défends le mauvais football, Raphaël, il est atterré.
Mais non, mais moi je trouve qu'ils vont très bien, les Steelers. Enfin, je veux dire, c'est une équipe
bien,
qui...
Ils vont bien avec ce qu'ils ont, quoi.
Oui, mais ce qu'ils ont progresse de semaine en semaine. C'est-à-dire que Najee Harris, qui était dans une sorte de faille mentale absolue, ça fait plusieurs semaines qu'il montre des signes de vie. Que Kenny Pickett, bah, mine de rien, bon an, mal an, ça progresse. Que Pat Freiermuth, ça progresse. Alors, aussi.
Attends, t'es trop positif. Il faut que Raphaël dise quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît pas dans tout ce
non, 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 mais en vrai, je faisais la moue, mais parce que c'était sur le côté méritant. Mais effectivement, après, c'est cohérent. C'est cohérent. Et Victor a commencé à égrener. Donc, je rejoins sur le côté. Les Steelers s'en sortent, se débrouillent pas trop mal avec ce qu'ils ont. C'est juste. Ça reste un petit braquage vu les circonstances du match. Oui. Je suis pas sûr qu'il soit plus méritant de l'emporter ce soir-là que les Raiders, tu vois.
Bon, heureusement qu'on t'a pas invité dans l'émission de jeudi, parce qu'on va dire qu'ils peuvent aller au Super Bowl et tout. Donc... On termine avec les Rams 51, les Broncos 14. On a évidemment évoqué le sujet via le prisme du licenciement de Nathaniel Hackett en début d'émission. On va juste utiliser la fin pour, parce qu'on a parlé de tout ce qui est Broncos, hein, les bagarres en interne, etc., etc. Juste un mot pour les Rams quand même, pour le côté Rams sur ce match. Tu l'as rappelé vaguement en début d'émission, Raphaël, qu'ils sont quand même sans Stafford, sans Kupp, sans Aaron Donald. Donc Denver s'est quand même fait humilier par Baker Mayfield, Cam Akers et Tyler Higbee, ce qui n'était pas tout à fait écrit au début de l'année. Hein, si on avait dit il y aura un match Rams Broncos au début de l'année. Donc Baker Mayfield quand même qui est en train de se refaire une santé, c'est un peu la leçon de ce match. Est-ce que c'est un alors peut-être 24 sur 28, 230 yards, 2 touchdowns?
Je trouve que oui, c'est un alors peut-être, d'autant plus que la situation de Matthew Stafford n'est pas totalement connue en termes de santé. Donc à partir de là, sachant pas si Matthew Stafford va jouer les premiers matchs de la prochaine saison, pourquoi ne pas garder Baker Mayfield sous la main, qui se débrouille pas trop mal avec peu de cibles, avec une ligne offensive, alors qui est enfin la même depuis 2 semaines, mais la même de mauvais joueurs, donc bon, qui à force de finalement mettre les mêmes mauvais joueurs sur le terrain, au bout d'un moment finit par trouver un peu de cohésion, donc il profite aussi peut-être d'une ligne offensive un peu moins mauvaise qu'elle n'a pu l'être. Mais du coup, effectivement, il n'est pas inintéressant dans un schéma peut-être un peu plus quarterback friendly que ce qu'il a pu connaître ailleurs. Donc, ouais, si je suis Los Angeles, je me débrouille pour le garder sous la main en attendant de savoir trop ce que fait Stafford, quoi.
T'insinues que bosser avec Sean McVay à Los Angeles, c'est un meilleur environnement que de bosser à Cleveland ou à Carolina, quoi.
Ouais, oui, je l'insinue, ouais. Je l'affirme même.
Victor, t'as un petit espoir pour l'ancien numéro 1 de la draft?
Bon, oui, globalement, Baker Mayfield, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais il a fait quand même 2 bonnes saisons, sa saison rookie et sa 3e, donc il est capable d'en faire. Il sera probablement pas un titulaire pendant 15 ans, indiscutable, Hall of Famer, ce que tu veux. Mais en attendant, avec en effet cette santé de Stafford très incertaine, moi, je vois pas pourquoi il le garderait pas l'année prochaine. Enfin, si le prix reste raisonnable, sachant que le prix, ça sera le backup le mieux payé de la ligue ou pas loin. Hein. Faut pas se mentir. Mais pour autant, oui, je pense qu'il faut le garder. Et la plus grosse résurrection, c'est Cam Akers. Cam Akers, ils ont tenté de couper, d'échanger, de foutre à la poubelle, de le cryogéniser, tout. Le mec, il est toujours là. On sait pas pourquoi. Et là, depuis 3 semaines, il revit. Bon, bah écoute, tant mieux.
Il attendait que je le coupe de ma fantaisie.
Tu l'as coupé ?
Ah bah, je l'ai coupé il y a longtemps, je l'avais sélectionné pendant la draft. Alors, inutile de dire que ça n'a pas été vraiment un de mes moteurs cette année. Hein. Bref.
Ah, mais attends, je vais voir si je peux le récupérer pour la finale.
Ah, oui, c'est vrai. Bon. En tout cas, Baker Mayfield, Cam Akers, le duo improbable de cette fin d'émission qui aura donc porté les Rams à un succès énorme, giga carton. Il s'était fait cartonner à coup de 50 points dans un Super Bowl, les Broncos, dans une fois, par les Niners.
Les Broncos, bah, ils se sont fait cartonner par les Seahawks.
Par les Seahawks, c'est pas mal aussi. Hein.
Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai. Aussi. Mais ils n'avaient pas pris 50 points une fois sur le nez.
Bah, ceux qui prennent 55 points au Super Bowl, c'est Bengals, pour moi.
Ah, pardon.
Ouais, okay. Ouais, ça, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a un autre 50 burger que les 55 points des Bengals, pour le coup. Hein.
Je sais pas, je croyais qu'il y avait une des... Non, je sais pas, je m'embrouille. Je m'embrouille.
Non, comme je te dis, je me rappelle que, enfin, il y a les 55 points de.
Non, mais ça doit être cela, je confonds avec
ouais,
ça.
Ouais, et les Bills s'en prennent peut-être 50 par les Cowboys, mais je pense pas que les Broncos prennent.
Ce serait particulier un Super Bowl à 50 points, on en a plus trop hein, des matchs comme ça.
Ah bah si, tu vois, et attends, je vérifie en live, t'as raison, 55 points, c'est contre les Broncos, c'est pas contre les Bengals. Je suis Bravo. Complètement à côté de la plaque. Oh là là, quel talent. Ouais, c'est pour ça que c'est le boss.
C'est pour mais ça que c'est le boss. Que c'est parce que je suis le plus vieux, c'est parce que j'y étais.
Mais oui, en plus, évidemment, c'est les Broncos. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, bien c'est joué, Alain, tu as raison, tu as raison.
Bon, tu me rassures parce que comme j'ai pris un an il y a quelques temps là, j'avais peur de commencer à perdre la
mémoire.
Non,
c'est moi qui commence à confondre les couleurs et les équipes. Donc ça commence à devenir inquiétant.
J'ai pas de problème à perdre ce qu'il y a sur le crâne, mais perdre ce qu'il y a dedans, ça commencerait à m'embêter.
Et les Bills sont bien pris 52 points.
Voilà aussi. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 564 du podcast Dodge en Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre Paul Up, Gil. Oh, vous êtes dur avec les pseudos des fois. Golgitok, Genzo, Blastem et François qui se sont ajoutés à la liste cette semaine. Alors, il n'y a plus de calendrier. On est arrivé au bout. Il y a encore des marque-pages et il y a encore des sous-verts et il y a encore des décapsuleurs et plein de trucs pour décapsuler les bières qu'on vous a offertes à Noël, par exemple, ou des choses comme ça. N'hésitez pas. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, TikTok @TDActu, les réseaux sociaux perso @VictorRoulier pour Victor si vous voulez voir son incroyable tweet qui a fait plus de 1000 likes. On dit pas... t'as dit vaguement ce que c'était, mais on va pas le dire, comme ça c'est des gens qui ont Twitter s'ils veulent aller voir
@VictorRoulier. Je suis un vrai influenceur. Je déménage à Dubaï la semaine prochaine. Voilà,
trop bien, ouais. Hein, trop bien. Trop bien. Et du coup, ouais, tu vas commencer à faire du dropshipping et tout là sur Insta.
Évidemment, au box opening la semaine prochaine. On va tester des nouveaux masques beauté, soyez là, c'est important.
Trop bien. Tu veux pas faire influenceur aspirateur? Parce que je t'avoue que je cherche un nouvel aspirateur, alors j'ai découvert un monde incroyable sur YouTube de gens qui testent des aspirateurs. Et je te jure, c'est un délire. Hein. Si ça t'intéresse et que t'as besoin d'aspirateurs gratos,
c'est le cadeau de Noël qu'on m'a offert l'année dernière. Tu vois, j'arrive à un âge où on m'offre un aspirateur en cadeau de Noël, j'étais content, tu vois.
Ah, tu vois, bah j'aurais pris ça. T'en es content? C'est quoi le modèle? C'est le mec. Bon, bref.
Je te donnerai en off.
En off. Merci. Si vous avez des conseils d'aspirateur, mon Twitter, c'est @AlainMattei. Raphaël_TDA. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais un doute si c'était Raph ou Raphaël. Bon, bref. @Raphaël_TDA pour Raphaël. On vous rappelle toute l'actu de la NFL, tous les articles et tout le reste, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain pour la preview de la 17e semaine, déjà la 17e semaine de NFL. Ce sera avec Lucas Vola. Merci beaucoup, messieurs. Et à très bientôt sur les antennes de TDActu.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.